Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En premier, excusez ma voix rocailleuse. On dirait qu'un camion de 12 tonnes qui est passé à travers ma gorge. Mais c'est une petite grippe qui est arrivée comme ça. C'est pas le COVID, donc une petite grippe qui est arrivée. Et ça me fait une voix, la voix que vous entendez. Donc, c'est plus Lolita qui va animer aujourd'hui ce Béliveau rencontre. Et on a comme invité Catherine Agostini-Salambier. Salut Catherine.
Bonjour, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous.
Merci Catherine. Salut Lolita, tu vas bien?
Salut, ça va bien toi? Quand même?
Pas super? Oui, quand même. C'est, on va survivre. Là. Une grippe d'homme, c'est toujours ce qu'il y a de plus.
Ah, c'est toujours très, très grave.
C'est toujours très, très grave. Là, on est diffusé en direct, page Facebook, LinkedIn, YouTube et même sur ma chaîne Twitch maintenant. C'est une plateforme de vidéos et tout ça sur Twitch. Et demain, vous allez entendre ce Béliveau rencontre de 30 minutes aujourd'hui qui va durer. Il va être mis en balado sur les plateformes habituelles comme toutes les deux semaines et aussi sur Unicité dès jeudi soir avec Sly Chapel, par exemple. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe et c'est pourquoi qu'on a fait un petit Béliveau rencontre spécial avec Catherine Agostini parce qu'elle a écrit un livre justement sur le sujet. Et pour mettre la table dès le début, on a eu les chiffres, c'est pas les derniers chiffres, mais les chiffres de 2021, il y a eu 2750 transplantations d'organes qui ont été pratiquées au Canada et ça veut dire une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est la même chose, c'est une même augmentation pour cette année, mais on va avoir les nouveaux chiffres là-dessus. Catherine, comment ça a débuté, toi, que tu as été sensibilisée au don d'organes? C'est une histoire que tu as vécue.
Oui, alors voilà. Donc, oui, effectivement, en mars, j'ai publié chez Béliveau Éditeur ce livre, Grève d'amour, le cadeau de Léo. Et dans le fond, ce que j'explique, ce qui s'est passé, c'est que lorsque mes filles étaient adolescentes, elles ont voulu signer leur carte. Et puis moi, j'ai dit, oh là là, attendez, comment est-ce que mon cœur de maman pouvait imaginer déjà le décès de mes deux filles, pouvait imaginer leur petit corps morcelé. C'était comme insupportable un petit peu comme vision. Et puis, je suis coach et ethnothérapeute. J'accompagne en fait les personnes en difficulté. Je guide aussi des voyages à travers notre belle planète, des voyages initiatiques. Et durant un voyage, j'ai rencontré une personne qui était là justement un peu pour se déposer, pour se ressourcer et pour clarifier la vision de sa vie. Et elle m'a expliqué son amoureux avait un problème au rein, qu'il s'en allait vers la dialyse, c'est-à-dire en fait l'acheminement vers... On est attaché à une machine, hein, le rein ne fonctionne plus et c'est la machine qui va s'occuper de purifier le sang. Et elle ne savait pas si elle allait pouvoir, si elle voulait donner son rein, parce qu'on peut donner son rein de son vivant. J'ai donc accompagné ensuite un deuxième couple, et ici c'est l'histoire de ce deuxième couple. Là c'était l'inverse, c'est elle qui a eu un problème de rein et c'est Léo qui lui a donné. Et donc là je me suis rendu compte vraiment de cette extraordinaire transmission de destin, de ce miracle, parce que finalement on se rend compte combien le greffé peut retrouver une vie normale. Et puis, j'ai eu envie un petit peu donc, de faire la promotion du don d'organes, on va dire. De dire un petit peu que si on est receveur, est-ce qu'on ne devrait pas être donneur? Et puis, j'ai Mathieu Dupré, là, qui est un grand spécialiste et qui s'occupe justement de récolter les dons d'organes, qui a écrit la postface du livre et qui m'a dit: tu sais, en réalité, ce qu'il faut vraiment, c'est plutôt que chacun réfléchisse, pousse une réflexion mûrie et partage à ses proches la décision. Parce que lorsque le moment arrive, qu'on est vraiment dans un immense stress, hein, qu'on est sous le choc, c'est pas là le moment de se dire, bon ben, là, c'est plus le moment. Je veux dire, on est tellement dans une situation
de douleur.
Mais oui. Voilà, l'invitation, donc avant tout, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la journée du don d'organes. C'est pour ça que merci de faire ce live exceptionnel. C'est aussi pour remercier cette journée, c'est aussi pour remercier tous les donneurs. Mais voilà, l'invitation vraiment profonde du livre, c'est un livre qui donne beaucoup d'informations, qui explique aussi comment ça s'est passé. C'est un témoignage suite à un récit, c'est un récit sur des faits réels. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter les familles, d'inviter chacun à la réflexion et la partager à ses proches. Voilà, c'est vraiment l'important. Qu'est-ce que je veux faire si la situation se présente?
Par rapport à ça, dans votre entourage, avec ce qui s'est passé avec ce témoignage-là, est-ce que de vos proches l'ont fait, signer leur carte?
Alors oui, absolument. J'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont dit, écoute, on n'avait pas vraiment plus le temps d'y réfléchir. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose réfléchir à la mort.
C'est pas joyeux.
Voilà. Et puis aussi beaucoup de gens étaient très étonnés qu'on puisse donner un organe de son vivant. Et j'ai eu pas mal de questions aussi au sujet de l'âge, parce que j'ai des personnes âgées qui m'ont dit mais tu sais moi j'ai tel âge, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est ce que j'explique au début du livre dans Un oui pour une vie. En fait, le donneur le plus âgé avait 98 ans.
Oh, t'as marre quand même.
Et le plus jeune 48 heures.
Ouf! Wow!
J'aurais jamais pensé qu'une personne, on va dire, entre parenthèses, âgée, pouvait encore donner de ses organes.
On est tous des donneurs potentiels, en fait.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
Puis, c'est tout simple, c'est directement, c'est cette carte-là. Et en arrière, on colle un petit autocollant et on met directement, on signe, si jamais, puis regardez, c'est signé, donc c'est directement pour le don d'organes. Vous avez juste à faire cette petite action-là qui ça prend 3 minutes. C'est juste de signer, à poser l'autocollant derrière votre carte de la RMQ. Puis directement, si jamais arrive quelque chose, ben les personnes, ils savent comme quoi que vous faites un don de vos organes.
Un don volontaire.
Un don volontaire.
Oui, tout à fait. Est-ce que ça a été difficile de convaincre le couple que tu as accompagné finalement d'embarquer dans le projet de faire un livre de leur expérience?
Alors, non. Donc, comme je le disais, d'abord, je n'aime pas convaincre parce que convaincre, pour moi, c'est encore vaincre. Et ouais. Que je ne suis pas dans cet espace-là. Non, j'ai donc accompagné 2 couples. Alors, le premier couple a décidé de témoigner lorsqu'ils en auront l'occasion et le temps. Souhaite écrire un livre, donc j'ai absolument respecté ça parce qu'au début c'était ce couple-là dont je voulais parler. Il y avait même été question d'une coécriture, mais en fait voilà, la jeune maman, elle a des petits enfants. On sait qu'écrire un livre c'est beaucoup beaucoup, c'est beaucoup de temps. Donc chaque chose en son temps, voilà. Et par contre le deuxième couple m'a vraiment dit, nous on est heureux parce qu'on n'est pas écrivain, hein, on n'est pas, donc on est heureux que tu témoignes pour nous, parce que c'est un pur miracle, quoi, vraiment.
Cet accompagnement-là, il a duré combien de temps? 1 mois? 2 mois? 3 mois?
3 ans.
3 ans, et c'est quand même beaucoup.
Oui, oui. Puis alors, les questions que je soulève, parce que je soulève pas mal de questions dans le livre, par exemple, est-ce qu'on a le droit d'être soi-même? Lorsqu'on est maman d'une petite fille, lorsque notre petite fille nous dit, moi, je vais donner mon rein... Et on lui explique que non, elle est trop petite. C'est sûr, c'est papa qui va le donner. Ah oui, mais est-ce que papa veut vraiment le donner? Est-ce qu'on a le droit d'être soi-même? Ça, c'est une des questions un petit peu, je trouve, centrales. Est-ce qu'on peut dire non? Est-ce que c'est possible? J'explique aussi qu'il y a toute une procédure pour voir si on est compatible. Il y a un tas d'examens médicaux. Et qu'au dernier moment, dans tous les cas, si on a fait tous les examens et qu'on est compatible, l'équipe médicale peut nous protéger pour qu'on puisse dire un non.
OK. Mais on a toujours le choix à la dernière minute de reculer.
En donnant, par exemple, un diagnostic qui ne serait plus adapté. Donc, on reste libre tout le temps. Et ce qui est dit un petit peu dans le milieu médical, c'est qu'un organe du vivant qui serait donné à contre-cœur n'occasionnerait pas forcément un résultat favorable. Et puis, ce que j'explique aussi, c'est que non seulement il y a la greffe physique, mais aussi il y a la greffe psychologique. Parce que recevoir un organe différent dans son corps, c'est toute une aventure. Alors en fait, le greffé va avoir 3 reins, dans le cas du rein, 3 reins.
Ah oui?
Le nouveau rein, en fait, va se lever, on va dire un petit peu, entre les deux autres. Et la personne qui aura donné son rein, qui peut très bien vivre avec un seul rein, en aura qu'un.
Ça barouette. Moi, je pensais qu'ils enlevaient celui-là qui était défectueux et ils le gardent.
Oui.
Tout simplement. Oui. Maintenant, comment va cet homme-là qui a reçu un rein?
Tout le monde va bien.
Tout le monde va bien.
Mon cas, oui, là, tout le monde va bien. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu témoigner de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des difficultés, qu'il n'y a pas eu des adaptations, des peurs. Et comme j'explique aussi un peu, parce que je suis conférencière et je vais faire justement, j'ai fait une conférence, une grosse conférence en France autour de ce sujet, autour du livre, et j'avais choisi comme sujet « Avoir moins peur de ses peurs ». Je fais une autre conférence à la bibliothèque Mordecai-Richler le 29 après-midi, toujours sur le même sujet autour du livre. Et ce que j'explique, c'est qu'on ne peut pas vivre sans peur. C'est pas possible. Mais l'idée, c'est d'avancer pas à pas avec ses peurs, de les apprivoiser.
Mais il y a toujours, pour le greffé, il y a toujours que l'organe qui reçoit qui a un rejet.
Alors, il y a toujours cette possibilité. Donc, l'idée, c'est d'être compatible déjà au départ. Et puis, il y a tout de même des médicaments. Et il faut pas se leurrer, hein. On ne renaît pas à neuf, hein. Mais quand même, c'est une vraie renaissance. Et justement, j'ai appelé un chapitre la réincarnation de rein. Voilà, c'est vraiment quand même une deuxième naissance. Mais oui, il y a tout un protocole médical et des médicaments pour éviter effectivement le rejet. Le rejet.
Vous avez, dans ce que j'ai lu sur toi, c'est que tu as voyagé sur les 5 continents. Donc, tu as accompagné des gens pour ce genre de processus-là sur 5 continents. Selon toi, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde plus propices à se remettre de ce genre de gros paragraphes, de gros arrêts dans une vie? Est-ce qu'il y a des endroits plus propices à se remettre de ce genre d'opération-là?
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai vécu sur 5 continents et je voyage, je suis guide donc de voyage initiatique, je voyage avec une agence de voyage et je guide partout, hein, en Inde, en Égypte, à Bali. Mm-hmm. Là, j'ai emmené au Japon. Je crois que le ressourcement, il est possible partout. Là, je reviens d'un chalet en Lanaudière, près d'un petit lac privé. Et j'ai envie de dire que plus ça dépend du besoin. On peut avoir envie d'aller à Bali pour justement peut-être se changer les idées ou avoir envie d'aller plutôt dans un chalet pour se déposer en famille. Je crois qu'il n'y a pas de lieu particulier. Il y a surtout apprendre à s'écouter.
Moi, je vais aller plus loin que la question de Lolita. C'est est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre qui sont plus sensibles aux dons d'organes?
Alors, j'étais très étonnée parce que justement, je suis revenue récemment d'Égypte et mon guide, Antoine, qui sait que j'écris parce que ça fait plusieurs années que je le connais, il me dit « Sur quoi tu as écrit cette année ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, voilà, j'ai témoigné d'une grève de rein. » Il me dit « Comment ça ?» Comment ça, tu as témoigné d'une grève de rein? Parce que je lui expliquais que, oui, ce que tu viens de dire, Jean-Luc, c'est tout à fait juste. Il y a de plus en plus de greffes, mais on est toujours en manque d'organes, en cruel manque d'organes. Alors, je lui expliquais, au départ, moi, j'ai voulu écrire ce livre pour un peu expliquer que si on est receveur, on devrait peut-être pouvoir être donneur. En tous les cas, inviter à la réflexion. Il m'a dit, mais moi, en Égypte, quelqu'un qui a besoin d'un rein, mais toute la famille se précipite pour lui dire, moi. Moi, je vais donner. Moi, je vais faire les examens tout de suite pour voir si je suis compatible. Et il m'a dit, mais moi, je connais plein autour de moi qui ont eu des grèves de reins de leurs proches, etc. Donc, est-ce que c'est culturel?
Ça se pourrait, hein?
Ça, je l'ai su donc après le livre. Alors, j'en ai pas parlé parce que voilà, le livre était déjà publié. Mais ça m'a vraiment interpellée, cette notion de solidarité, de famille qu'on retrouve dans... Parce que je guide, ma maman est d'origine indienne, hein. Donc je suis eurasienne, moitié orientale et occidentale. Et en Inde, c'est pareil. Tout le monde se précipite pour essayer d'aider le membre de la famille. Alors là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui fait que nous, on manque d'organes et que dans certains pays, il n'y a aucun problème?
Ouais.
à travers l'Asie, à travers...
La mentalité individualiste est peut-être plus forte du côté du Nord. Voilà. Ça se pourrait.
Je ne veux pas donner de réponse, mais on peut se poser la question.
On se pose la question, oui, veut pas, là.
On s'aime autant, je pense qu'on aime autant nos proches.
Mais dans tous ces voyages-là, dans tous ces parcours, dans ces rencontres extraordinaires que tu as faites, c'est sûr que ça te fait développer des atouts que tu possèdes, que tu exploites dans tes conférences. Mais selon toi, ta plus grande force par rapport à ce bagage que tu as accumulé avec le temps?
Alors, je dirais que ma plus grande force, c'est ma fragilité.
Oh, quand même!
Oui. Parce que j'ai été une héroïne et une guerrière pendant des années. Et puis, il y a une vingtaine d'années, ma vie a complètement changé suite à un drame. Et là, j'ai embrassé autant mon ombre que ma lumière. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans le livre Lumière, et le livre qui a été publié l'année dernière. Et je crois que d'être dans une carapace, d'être une guerrière, oui, on nous admire, etc., mais ça nous éloigne de l'autre. Alors que quand on montre sa fragilité, c'est là qu'on se branche cœur à cœur et âme à âme.
Donc, ta vulnérabilité, c'est ta plus grande force.
Oui. La reconnaître, l'accepter, ne pas la juger et l'aimer, oui.
C'est très beau. Qu'est-ce que j'ai lu aussi dans certains extraits de ton livre, que pour toi, l'éveil, c'est important. Alors, qu'est-ce que tu considères comme la voie de l'éveil?
Alors, moi, j'ai embrassé la voie du zen, il y a plusieurs années en arrière, qui est la voie de la grande compassion, la voie de la grande douceur et qui est une voie d'éveil. Alors, ce que je crois de mon expérience, moi, je dis toujours, ne me croyez pas, vivez des expériences. Hein. Je guide des retraites au Québec aussi. Je suis, on va dire, une tisseuse d'expériences et puis une éveilleuse de conscience pour que chacun puisse vivre, en fait, aligné avec ses valeurs qui lui sont propres. Donc, pour moi, mon expérience, j'ai vécu un éveil, une mort mystique, en fait. Là, les gens ne vont peut-être pas vraiment comprendre, mais j'ai vécu vraiment un éveil grâce à une chamane dans les Laurentides, d'ailleurs. Mais je crois, comme on dit un peu, c'est que après l'extase, parce que l'éveil, c'est une forme d'extase, la lessive.
La vie reprend. Le gros ménage.
La vie reprend.
Hein. Tout à fait.
Qu'est-ce que je fais de cet éveil, de cette prise de conscience, de cette découverte? Qu'est-ce que j'en fais ensuite au quotidien? Et je crois que là, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est-à-dire... C'est comment je peux nourrir cet amour, partager cet amour, semer cet amour, cette compassion. Donc, en fait, c'est plutôt, après avoir vécu un état, j'ai envie de dire, c'est plutôt ensuite une façon d'être en pleine conscience, une façon d'être dans la bonté.
Est-ce qu'après avoir écrit ce livre, est-ce que tu as reçu beaucoup de messages, de témoignages, de greffés ou de donneurs?
Oui.
Ils ont partagé leur vécu.
Oui, parce que comme je l'ai publié un peu justement davantage ces jours-ci, puisque je voulais un peu tisser autour de ce 17 octobre, tisser une toile un peu plus grande, je fais partie de différents groupes. Et toi, t'en es où? Des dons d'organes, dons de greffe, etc. Donc, bien sûr, j'ai publié, j'ai indiqué la publication du livre dès qu'elle est sortie, mais j'ai tissé des liens, bien sûr. Et ce que je sens, c'est non seulement le miracle de la vie à travers la greffe, mais c'est aussi un énorme appel à l'aide, parce qu'il y a tellement besoin d'organes. Sur ces sites, c'est beaucoup d'appels à l'aide en disant, voilà, s'il vous plaît, moi j'ai besoin d'un rein, moi j'ai besoin de ceci. C'est beaucoup ça aussi, hein. C'est beaucoup ça. Donc oui, bien sûr, témoigner de cet extraordinaire, voilà, ce miracle de la vie, mais aussi de ces appels urgents, de ces appels de détresse.
Mais qu'est-ce qui bloque selon toi qu'au Québec, par exemple, au Canada, on ne soit pas si friand de signer notre carte pour faire le don d'organes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque?
C'est la peur et l'ignorance. Parce que moi, j'ai eu peur il y a plusieurs années en arrière, quand mes filles ont voulu signer, c'est la peur qui m'a fait dire « Oh là là, attendez, on va réfléchir, je ne sais pas. » Et puis, c'est ça, je ne sais pas. J'ignorais jusqu'à cette rencontre, ces rencontres, j'ignorais ce que ça pouvait faire, le changement que ça pouvait apporter. Et c'est ça, j'avais pas envie non plus de plonger dans la mort, dans la maladie. J'avais pas envie trop de savoir. On est bien, on est en santé, on n'a pas trop envie. Donc, je crois que c'est la peur et l'ignorance. Et puis, envie de rester un petit peu dans sa zone de confort et sa zone de santé. Et puis, se dire que ça ne nous arrivera pas.
Donc, l'idée, c'est de lever le voile sur bien des préjugés à ce sujet-là. Parce qu'il y a des préjugés, ils ne veulent pas, là.
Bien sûr.
Les gens ont peur, les gens s'imaginent des vérités qui n'existent pas.
Bien sûr, ce qu'on s'imagine aussi, j'en parle dans le livre, c'est un peu Frankenstein, avec la bassine et les morceaux. C'est plein de questions. En fait, ça m'a vraiment propulsée dans tout un monde que je ne connaissais absolument pas.
J'ai déjà entendu des gens dire, moi, je ne voudrais pas donner mes organes, j'ai peur qu'on pense que je suis mort, puis je ne suis pas mort, puis on les prélève sur moi. C'est ça, je dis, c'est des préjugés, ça. Là. C'est des histoires d'horreur parce qu'on écoute peut-être trop la télé, mais ça serait d'enlever le voile sur ces genres d'idées préconçues.
Voilà, alors j'en parle dans le livre parce que donc il y a la mort cérébrale et puis il y a la mort cardiaque, qui sont deux choses différentes. Je parle de toutes ces peurs, mais je crois vraiment que c'est de savoir, c'est la connaissance qui va pouvoir permettre, pas seulement dire signer, mais c'est vraiment ce que je voulais apporter, c'est regarder, comprenez, je vous explique qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe, parce que la peur et l'ignorance sont, je crois, les grands fléaux
de l'humanité.
Oui,
tout à fait, tout à fait. Ça engendre bien des choses, la peur et l'ignorance.
On a des messages, on a Linda Huot qui dit bonsoir, il y a Joseph Abbott qui dit bonsoir à vous, Julie Montembeau qui dit merci Catherine pour ton extraordinaire travail et ta fragilité précieuse.
Est-ce que je peux dire juste quelque chose? Julie, justement, c'est le premier couple que j'ai accompagné dont je vous parlais.
Oh.
Julie,
bonjour Julie.
Et voilà, une aventure extraordinaire. Hein, vraiment, je te rends hommage. Je vous rends hommage, Julie, Enrico, Clémence et Camille, une magnifique famille que j'ai accompagnée. Et Enrico peut témoigner. Et Julie aussi, toute la famille du miracle du don d'organes, puisque maintenant Enrico a un rein qui fonctionne bien.
Et une vie normale.
Oui.
Oui, elle dit d'ailleurs bonjour, elle a écrit un petit message. Et on a Kali aussi qui est là. Et elle dit, papa me disait ça, il m'a toujours fait peur de me dire ça.
Elle te parlait probablement peur de se réveiller, puis qu'elle n'y a pas mort, puis qu'il prélève de quoi. Ouais.
Il y a Joseph qui dit, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai signé ma carte pour don d'organes à ma mort.
Merci. Merci pour ce beau témoignage, ces présences.
C'est est-ce qu'on sait, par exemple, est-ce que toi, tu as une idée, Catherine, est-ce que les gens qui commencent à signer leur carte, est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce que ça existe, une statistique là-dessus ou pas du tout?
Je ne sais pas exactement, non, ça, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a eu un changement de procédure en France et qu'en France, tout le monde est donneur potentiel. Il faut signaler qu'on ne l'est pas. Mais au moment du décès, on demande quand même à la famille, parce qu'on ne veut pas non plus braquer s'il y a des gens qui sont complètement contre. On veut quand même respecter le deuil et la souffrance de la personne. Donc, je sais qu'il y a eu un changement de procédure en France. Non, je ne sais pas quel est le pourcentage de cartes signées ou pas, puisqu'en fait, chacun garde sa carte aussi. On garde nos cartes avec nous.
Ouais.
Une question qui m'intrigue, sais-tu, pour si une personne qui a subi un rejet, est-ce qu'il est admissible à un autre organe par la suite?
Alors oui, c'est possible. Oui.
Mais il n'y a pas de quantité limite, mettons qu'après un, ça ne fait pas, après deux, ça ne fait pas, est-ce que…
Oh, c'est très compliqué. Alors, on fait partie d'une liste d'états. Hein. On ne choisit pas comme ça, ça dépend de votre âge, ça dépend d'un tas de choses. Donc, on fait partie d'une liste. Oui, on peut être greffé plusieurs fois parce que parfois un organe ne dure pas toute une vie non plus.
Ok.
Et voilà, on fait partie d'une liste d'attente et ça, la liste d'attente, c'est terrible.
C'est pénible.
C'est terrible. C'est terrible. Parce que est-ce que je vais tenir jusqu'à ce qu'un organe me soit donné?
Oui.
Il y a Julie qui écrit on a été tellement choyés par la vie tous les jours, on dit merci à la vie.
Donc, c'est ça. Julie qui témoigne. Julie, c'était en 2019. Je crois que, si je me rappelle bien, la greffe a eu lieu en 2019. Je ne sais pas si elle peut nous confirmer.
Oui, avant de nous écrire de.
Non, dans quelques minutes. 2019, 2023.
Ah, oui, 2019. Elle dit oui.
Oui. Donc, c'est ça. C'est Julie, vraiment, Julie et Enrico, qui m'ont plongée dans ce monde-là, les premiers. Et qui témoignera d'un livre. Quand les enfants sont un peu plus grands, elle sera moins en charge.
C'est agréable parce que lui, il peut voir grandir ses enfants. Avec ce don-là, ça a tout changé. Là, la famille a pu rester soudée. Ils ont pu avoir un avenir ensemble.
Les voyages, ils aiment beaucoup les voyages. C'était plus possible. Parce qu'il faut la dialyse, c'est 3 fois par jour, 4 heures par semaine. Séance par séance.
Ah oui, oui, tu deviens vraiment...
3 fois par semaine. 4 heures par séance, puis vous imaginez le milieu dans lequel on est, puis je parle justement de la fistule, qu'est-ce que c'est cette façon, comment est-ce qu'on attache cette machine. Non, c'est très difficile, hein, c'est très difficile.
Et il n'y a pas d'âge non plus pour signer la carte.
Non.
Ça, c'est vraiment, je pense que c'est obligatoire de le dire, il n'y a pas d'âge pour la signer. Moi, j'ai 49 ans et je l'ai signé il y a à peu près un an et demi. Et je l'ai signé vraiment parce que j'ai été sensibilisé par un ami. Et voilà, ça a été vraiment signé. Je l'ai montré tantôt à la caméra, mais il n'y a pas d'âge vraiment pour signer une carte. Et ça, c'est très important, même si on a 60 ans. Ben, il y a peut-être quelque chose qui peut être récupéré pour le prochain.
Bien sûr, on disait jusqu'à 98.
Hein. Souvent, la personne qui a donné un membre, moi, j'ai connu une personne qui a donné un rein aussi, là. Elle fait une vie normale par la suite, là.
C'est ça.
Elle vit très bien, là. Elle ne se pénalise pas, mais elle a sauvé une vie.
C'est ça, absolument. Et puis, le serment d'Hippocrate, hein, de toutes les façons, du médecin, c'est ne pas nuire, hein, ne pas nuire. Donc, si enlever un organe, c'était nuire, je pense que ça poserait un gros problème.
Oui, tout à fait.
Et voilà, c'est que c'est vraiment possible. C'est vraiment possible.
On a une petite surprise pour toi, Catherine. On a Lolita qui t'a préparé un mot. Donc, on appelle ça maintenant, c'est la nouvelle tradition, c'est le mot de Loli. Donc, Lolita.
C'est à toi, tu peux t'en servir, faire ce que tu veux avec. Moi, je t'ai composé. L'éveil est un éclair au milieu de la nuit. Quand l'éclair se transforme en flamme dans le regard et la conscience, l'éveil devient un phare pour la multitude.
Merci.
Et voilà.
Merci.
Ça ressemble à ce que tu transmets dans tes cours, dans tes conférences.
Merci.
Catherine, on va te laisser le mot de Ah, on a une question. Joseph qui dit « Est-ce que le Québec devrait changer sa loi pour que ce soit l'inverse, les personnes qui ne veulent pas doivent signer ?» Plusieurs oublient de signer, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas.
Est-ce que le Québec doit changer sa loi, comme la France par exemple justement l'a changé en disant qu'on était potentiellement donneur ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je reviens un peu sur ma position en invitant chacun vraiment à réfléchir, à en parler en famille, à s'informer.
C'est
la solution. Et ensuite, ouais. Comme toi, Jean-Luc, ou comme moi, eh bien, prendre une position ouverte. L'important, c'est de laisser la liberté de chacun aussi. Hein.
Tu donnes des conférences à Montréal et en Europe bientôt, je pense.
Alors, Montréal, oui, le 29. Mordecai-Richler, la bibliothèque qui est au plateau Mont-Royal, le 29.
Ouais, et tu as donné une conférence en France.
Oui, en Bretagne, c'était enfin mois de septembre, oui, sur le même sujet. Les gens étaient, oui, il y avait 300 personnes, c'était une grosse conférence.
Ouais. Alors, on va te laisser le mot de la fin, Catherine. Tu peux. Il est à toi, donc on te laisse la parole.
Eh bien, le mot de la fin, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que votre choix soit éclairé. Voilà. Et puis justement, comme on parlait de phare, des belles lumières, que votre choix soit éclairé. Voilà. Et voilà, je crois que c'est ce que je souhaite dire.
Ouais.
N'hésitez pas à le prendre, donc, hein, vraiment, parce que c'est un livre tout public. Donc vraiment, voilà, Grève d'amour, le cadeau de Léo chez Béliveau Éditeur. Et c'est un livre tout public et c'est un des rares livres un petit peu justement qui parle du don d'organes du vivant. Et puis c'est vraiment une belle histoire d'amour.
Ben, merci Catherine.
Ça fait du bien à l'âme et au cœur.
Merci beaucoup Catherine et merci à Lolita. Lolita, on se revoit demain à 8h.
Oui.
Et là, on va avoir Pascal Dufresne avec nous. Donc, on vous donne rendez-vous non pas mercredi dans deux semaines, mais demain, le 18 octobre, dès 20h, sur Béliveau Éditeur, la page Facebook, pour une nouvelle édition de Béliveau Rencontre. Et ça va être Pascal Dufresne. Merci d'avoir été présent et d'avoir posé vos questions. On se dit à demain et je vais essayer de reposer cette voix rocailleuse.
Toi, Catherine, je te souhaite des belles rencontres à la hauteur de celles que tu as eues. Puis,
merci beaucoup pour votre
dans tes projets futurs.
Pour votre bel accueil et merci pour la présence de tout le monde. Merci.
Bye bye.
Merci, Catherine. Merci, au revoir tout le monde.
Bonne soirée.
Bye.